qui me permet de vous rappeler qu'elle est professeure à l'Université de Genève. Elle est aussi l'auteur d'un livre sur Edgar Poe et d'un livre plus récent sur Roland Barthes. Patricia. On n'a pas entendu ?
Non, c'est parce que j'avais le bouton allumé.
Ah, je dois recommencer ma présentation. Patricia Lombardo est professeure à l'Université de Genève et auteure d'un livre sur Edgar Poe et d'un livre sur Roland Barthes.
Voilà, merci André Guillot, merci Antoine Compagnon pour m'inviter dans ce lieu que j'ai bien connu lorsque j'étais étudiante, lorsque l'architecture était très différente. Le cœur d'une ville, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, dans mes réflexions, c'est le rapport que Baudelaire entretient avec la connaissance, ou si vous voulez, avec la philosophie, ou avec la vérité. Dante, que Baudelaire lisait dans la traduction qui a été rappelée tout à l'heure par Pierre Brunel, et qu'il lisait surtout à travers la pensée de Delacroix. Delacroix ne représente pas Dante, il le pense, dit Baudelaire dans ses salons ou dans son long essai sur la vie et l'œuvre de Eugène Delacroix. Dante disait, ou faisait dire à Ulysse, dans le chant 26 de l'Enfer, Nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. Vous n'êtes pas né pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre la vertu et la connaissance. Et cette connaissance, je la retrouve à la fin du voyage, ce nouveau, cet inconnu vers lequel l'équipage, les équipages de ceux qui partent pour partir, s'engouffre avec bonheur et désespoir en même temps. Cette connaissance, on la voit, cet attrait de Baudelaire pour la connaissance, on le voit dans la présence très forte de la curiosité, et justement dans le voyage. Pour l'enfant amoureux des cartes et des estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Et dans la deuxième partie du voyage, toujours, la curiosité arrive. Même dans les sommeils, la curiosité, avec un grand C, allégorie, la curiosité nous tourmente et nous roule comme un ange cruel qui fouette les soleils. La curiosité est là. La curiosité est un terme qui revient très souvent lorsque Baudelaire commente ou présente le travail d'Edgar Poe. Cet homme, aucun homme, dit Baudelaire, n'a su présenter de cette manière si lucide les zones les plus impensées de l'âme humaine avec une curiosité de convalescent. Donc la curiosité, vous avez parlé d'émotions lyriques, il y a des émotions épistémiques, des émotions de la connaissance. Et bien sûr, la curiosité est une des premières. Et l'autre est la surprise dont vous avez parlé et dont Baudelaire parle justement lorsqu'il parle de Poe. Il dit qu'il est un de ces écrivains et poètes qui sait composer un poème ou une nouvelle qui fera un grand effet de surprise. Baudelaire moderne et anti-moderne. Voilà le titre qu'Antoine Compagnon nous a donné, et il nous l'a donné avec cette longue visitation des ambivalences de Baudelaire. Ce « et », cette petite conjonction qui dit l'addition, qui dit le rapport, qui est une promesse de correspondance. Cette petite conjonction, elle peut donner une secousse et avoir toute la force du choc de l'antithèse, comme dans ces titres que Baudelaire observe, chérie. Jamais, toujours. La petite sculpture d'Émile Hébert. Ou le rouge et le noir. Ou, bien sûr, Patrick Habart l'a cité, l'autantimerumenos, le soufflet et la joue. La victime et le bourreau. La conjonction est la promesse même de la réversibilité où les innocents et le coupable se rencontrent dans le sacrifice selon la vision de Joseph de Maistre. Alors, Baudelaire, attiré par la connaissance, ça apparaît très souvent dans les lettres, dans sa correspondance. Parfois, il se justifie de ses contradictions. J'ai jamais prétendu ne pas me contredire. Une âme éprise de vérité, le but de la connaissance, c'est bien la vérité, ou les vérités, peut parfois être ballottée entre une idée et l'autre. Patrick Labarthe, alors là, je suis très moderne, j'utilise l'objet, pof, voilà, et je reprends une très belle citation d'une lettre à Toussnel, où Baudelaire parle de cette attraction qu'il a pour la connaissance grâce au terme scientifique qu'il met là, justement, comme attribut de l'imagination. Il y a longtemps que je dis que le poète est souverainement intelligent, qu'il est l'intelligence par excellence et que l'imagination est la plus scientifique des facultés, parce que seule elle comprend l'analogie universelle ou ce qu'une religion mystique appelle la correspondance. Alors, j'ai donné ce titre, Baudelaire et l'expérience de pensée. Vous le voyez très bien, parce qu'il y a le terme pensée, qui est la voie de la connaissance, qui est la voie de la recherche de la vérité. Mais je l'ai donné aussi pour une autre raison, en utilisant un anachronisme. Mais qu'est-ce que c'est les anachronismes devant l'éternité, l'éternité de Baudelaire? Un anachronisme qui est ce terme « expérience de pensée », qui est anachronisme dans le terme, dans la terminologie, mais non pas dans la méthode. Ce terme a été inventé, si vous voulez, pour la première fois, par le physicien et chimiste danois Hans Christian Ørsted. Et il a utilisé le terme germano-latin, « Gedankenexperiment ». Et par cela, il voulait signifier quelque chose que, un peu plus tard, à la fin du siècle, Ernst Mach, le penseur, physicien, philosophe autrichien, avait appelé lui aussi Gedankenexperiment et quelque chose qu'il suggérait à ses étudiants. Il leur disait, les expériences, vous les étudiants de physique, vous les étudiants de ces disciplines extrêmement expérimentales, ces expériences, vous devez les faire d'abord en imagination. Ce sera le défi que Hempel et Eisenstein ont repris. Ils parleront de theoretical experiments in imagination. Vous voyez que l'imagination est la clé de ce type d'expérience, de ce type de pensée, qui donc se fait a priori avant la réalité, avant l'expérience même. L'expérience de pensée, ce sera repris comme terme par Robert Musil, le grand écrivain du XXe siècle. Et déjà dans son journal de la fin du siècle, de 1889, il me semble, il parle de la nouvelle comme un Gedankenexperiment. Et il conçoit tout son grand œuvre, L'homme sans qualité, comme une expérience de pensée. Donc l'expérience de pensée, c'est ce quelque chose que nous pensons grâce à l'imagination qui dépasse les données brutes du réel et qui s'ouvre au possible. Baudelaire, dans La Fanfare l'eau, sa nouvelle, son roman, une de ses premières œuvres, il aime citer, c'est Cramer qui cite une des pensées de Diderot, où Diderot fait la différence entre le sot et l'homme d'esprit. Le sot est celui qui pense que le seul possible est la réalité, et l'homme d'esprit, c'est celui qui a une vision vaste du possible. L'expérience de pensée, évidemment Baudelaire n'a pas utilisé ce terme, l'expérience de pensée est aussi, comme tous les possibles, une fiction. Quelle ancienne expérience de pensée était celle de Platon avec le mythe de la caverne. C'était une petite histoire qui avait la valeur d'un argument philosophique, qui avait la valeur de la pensée. Voilà donc que l'expérience de pensée, qui n'est pas de l'ordre du syllogisme dur, qui n'est pas de l'ordre de la dialectique, voilà qu'elle entre dans le monde de la connaissance comme une petite fiction, qu'elle entre comme le jeu du possible, qu'elle entre, je vous parlais auparavant de la petite conjonction « et », mais il y a une autre conjonction puissante, exorbitante, c'est la conjonction « si », celle qui s'ouvre aux hypothèses. Et là, voilà, j'ai une belle citation qui vient d'un des poèmes en prose, de La fausse monnaie, où le narrateur est sidéré, étonné de voir que son ami donne une monnaie à un pauvre type, et après il lui explique que c'est une monnaie fausse. Et voilà que le narrateur s'interroge sur beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'il se passera après, etc. Mais il va être emprisonné, il va avoir des problèmes, ce pauvre mendiant, ou peut-être il sera heureux et il passera ailleurs cette monnaie. Tous les possibles sont là. Ainsi, ma fantaisie allait son train, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami, étirant toutes les déductions possibles de toutes les hypothèses possibles. Vous le voyez, c'est le rayonnement du si. Et c'est un petit récit. Beaucoup de poèmes en prose sont des petits récits. Beaucoup de poèmes en prose sont des expériences de pensée qui tâtent l'éthique, la morale humaine, la morale à laquelle Baudelaire croyait, la morale diabolique, la morale à la Joseph de Maistre. Mais c'est bien des expériences de pensée. Expériences de pensée, suppositions, conjectures, vous le voyez, nous avons tous ces déploiements de termes qui indiquent le travail de la pensée, le travail du raisonnement. Alors, j'ai voulu bien prendre un passage où Baudelaire voit les conjectures, et il les voit en parlant de Victor Hugo, et il le voit dans tous les mondes possibles. L'imagination est scientifique et poétique. L'imagination est tout. Mystère. La totalité infinie des nombres doit-elle ou peut-elle se concentrer de nouveau dans l'unité originelle? Mystère. La contemplation suggestive du ciel occupe une place immense et dominante dans les derniers ouvrages du poète. Quel que soit le sujet traité, le ciel le domine et le surplombe comme une coupole immuable d'où plane le mystère avec la lumière, où le mystère scintille, où le mystère invite la rêverie curieuse, d'où le mystère repousse la pensée découragée. Ah, malgré Newton et malgré Laplace, la certitude astronomique n'est pas aujourd'hui même si grande que la rêverie ne puisse se loger dans les vastes lacunes non encore explorées par la science moderne. Très légitimement, le poète laisserait sa pensée dans un dédale enivrant de conjectures. Vous le voyez, l'hypothèse, la conjecture, et même les hypothèses au-delà, de celui qui avait commencé son ouvrage avec une splendide expérience de pensée, Laplace. Son essai philosophique sur les probabilités, qui est l'essai qui marque le début de la causalité déterministe, commence avec un démon, il appelle une intelligence. Supposons qu'il y ait une intelligence qui, pendant un moment, puisse régir toutes les formes de la vie et du monde, cette intelligence verrait tout avec certitude. Elle ne pourrait pas tomber en erreur. Vision, d'ailleurs, qui a été reprise par les scientifiques qui ont fait des expériences de pensée par la suite. On l'appelait le démon de Laplace et le démon de Maxwell, qui est une célèbre expérience de pensée plus récente, s'appuie sur ce démon-là. Mais Baudelaire exprime très bien ce que c'est que l'expérience de pensée en parlant d'Edgar Poe. Évidemment, cet homme de la conjecture. Edgar Poe, il a des moments où la conjecture l'irrite. C'est lorsqu'il a les petits conjecturismes de l'énigme, les petites énigmes du déchiffrement, des petits mystères. Mais il y a une autre conjecture, qui est ce voyage dans le possible, qui bien sûr séduit Baudelaire. Alors lisons comment Baudelaire exprime l'expérience de pensée, et vous verrez qu'il donne exactement la définition sur laquelle tous les philosophes contemporains, comme Sorensen ou Noël Carroll, qui ont parlé de l'expérience de pensée, seraient d'accord. Par une concentration extrême de sa pensée et par l'analyse successive, il parle de Dupin, à vrai dire, dans le conte L'assassinat de la rue Morgue d'Edgar Poe, et par l'analyse successive de tous les phénomènes de son entendement, il est parvenu, Edgar Poe, à surprendre la loi de la génération des idées. Entre une parole et une autre, entre deux pensées étrangères en apparence, il peut rétablir toute la série intermédiaire et combler, aux yeux éblouis, la lacune des idées non exprimées et presque inconscientes. Il a étudié profondément tous les possibles et tous les enchaînements probables des faits. Il monte d'induction à induction. Vous voyez, l'induction, ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce n'est pas ce qu'on déduit. Et dans un autre moment, il voit vraiment que la nouvelle est une expérience de pensée. Voilà, c'était le récit d'une âme qui vivait dans une planète disparue. Le point de départ de Poe a été, peut-on par voie d'induction et d'analyse deviner quels seraient les phénomènes physiques et moraux chez les habitants d'un monde dont s'approcherait une comète homicide. Expérience de pensée, exactement comme Musil l'a concevée, mettre quelqu'un dans une certaine situation et imaginer ce que seraient les conséquences du comportement, ou physique, ou moral, ou métaphysique, tout ce que vous voulez. L'expérience de pensée est notre possibilité de repenser le passé, de donner d'autres solutions dans le passé et de penser le futur. Alors, je pense qu'on pourrait vraiment voir chez Baudelaire, comme on voit chez Platon le mythe de la caverne, plusieurs expériences de pensée. Je vous disais auparavant, les spleens de Paris sont très souvent, pas toujours, très souvent, des véritables petites expériences de pensée morale. Mais il y a d'autres moments. On peut, bien sûr, en trouver beaucoup. Je m'arrêterai sur juste deux ou trois. Et Antoine Compagnon a parlé de la caricature. Et les considérations de Baudelaire sur la caricature commencent avec cette première partie de l'essai sur le rire, la partie la plus théorique, qui est probablement le texte le plus philosophique de Baudelaire. Là où Baudelaire prend la thèse classique du XVIIIe siècle de Hobbes, à savoir que le rire est le signe d'une supériorité de moi-même sur l'autre, de moi-même sur moi-même. C'est la superiority theory. Il prend cette théorie-là et il la colore de Joseph Dumestre, il la colore de diabolisme, de satanisme. Et son idée, c'est que le rire est profondément satanique. Il veut montrer que ce rire est satanique. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une de ses inductions, qui sont les expériences de pensée. Et il dit à son lecteur, permettez-moi une supposition poétique. Et cette supposition, elle est bien sûr teintée d'ironie. Elle est profondément moderne, cette fois-ci, ou anti-moderne pour d'autres raisons. On la verra, c'est la supposition qui fait imaginer à Baudelaire que Virginie arrive à Paris. Donc le rire est diabolique, c'est ça sa thèse, et il dit prenons la chose la plus opposée au diable, prenons l'ange, prenons l'innocence, prenons la naïveté la plus grande, la plus pure. Virginie, cette Virginie qui arrive à Paris, nous la faisons arriver à Paris. Elle arrive à Paris, comme dans le roman d'ailleurs, de Bernardin de Saint-Pierre. Elle arrive à Paris et elle a encore les yeux trempés de soleil et du bleu de la mer des tropiques. Et comme par hasard, cette innocente, elle se promène au Palais Royal, très innocemment, dit Baudelaire. Et nous savons quand même que le Palais Royal n'est pas un lieu très innocent au XIXe siècle à Paris. Voilà l'ironie. Et par hasard, elle tombe sur quelque chose qu'elle regarde avec les yeux écarquillés, c'est une caricature. Jamais vu ça. Virginie est très intelligente, dit Baudelaire, mais elle est simple, elle est naïve, et elle n'a jamais vu une chose aussi complexe qu'une caricature, qui présente quelque chose de double, le dessin violent et l'idée mordante. Et pour comprendre cela, il faut être les sophistiqués, les pervers, pleins de rancune et de fiel que nous sommes dans notre civilisation diabolique. Mais le diabolisme est bien sûr la bonne valeur morale. C'est le bon moderne. Le mauvais moderne, c'est la foi dans le progrès. Le bon moderne, c'est celui-là. C'est lui qui fait que nous sommes une civilisation perspicace et ennuyeuse, du moins dans l'essai sur le rire. Et elle regarde, elle reste complètement étonnée, voilà l'étonnement, émotion cognitive. Et d'abord, elle ne comprend vraiment rien. Mais, dit Baudelaire, nous pouvons être sûrs qu'elle est troublée. Nous voyons d'ailleurs que son regard se trouble. C'est peut-être une boutade pornographique. C'est peut-être une plaisanterie de boxeur. Son regard se trouble. Le battement d'ailes de la colombe commence à fléchir. Et je vous assure, dit Baudelaire, que plus de temps elle passera à Paris, plus elle comprendra la caricature. Et enfin, elle va accéder au rire. Et c'est extraordinaire, l'essai sur le rire. Et c'est extraordinaire qu'il file dans une glissade de la pensée qui n'est pas du tout la pensée systématique, mais la pensée complexe du possible, qui file de la superiority theory, de rire comme théorie de la supériorité, au rire comme incongru. Et vous le savez, cette première partie de l'essence du rire se termine avec cette description absolument incroyable du comique sublime qui est donnée par la pantomime anglaise, là où il y a ce Pierrot grassouillé et tout rond, qui vole tout et qui vole même sa propre tête lorsqu'elle est décapitée. Nous sommes passés de la superiority theory à l'autre théorie philosophique du XVIIIe siècle sur le rire, celle de Hutchinson et de Addison, la théorie de l'incongruité, incongruity theory. Tu disais, Baudelaire n'est pas attiré par la pensée philosophique, ni historique, ni, je dirais, classique, de la logique classique. Le syllogisme, même s'il aime raisonner, et vous vous souvenez, il dit souvent que c'est Edgar Poe et Joseph de Maistre qui lui ont appris à raisonner, Même s'il aime raisonner, il aime raisonner toujours avec ses méthodes philosophiques qui sont un peu excessives, disons, qui sont un peu paradoxales, hein, comme un des titres qui a été rappelé aujourd'hui. Et là, je voudrais voir avec vous, lire avec vous, un moment où Baudelaire vraiment égrène ce type de raisonnement philosophique qu'on appelle insorite. Je ne sais pas si Baudelaire, je pense qu'il n'a jamais utilisé ce terme, mais c'est un terme courant et c'est un terme qui présente un syllogisme multiple. À vrai dire, il présente deux choses, mais pour l'instant, prenons le syllogisme multiple, hein, c'est-à-dire c'est un syllogisme qui n'est pas fondé sur les trois phrases et les trois propositions qui tiennent le syllogisme, hein, où il y a la deuxième qui est la déterminante, comme disait Hegel dans sa logique. Hegel faisait toute sa critique au cogito ergo sum de Descartes en disant « mais il n'y a que deux propositions ». Alors que pour le vrai syllogisme, pour la vraie logique, il en faut trois. Il faut la déterminante, celle-là qui est au milieu. Mais dans le polysyllogisme, puisque c'est un enchaînement, vous perdez le milieu et vous continuez dans cette série, une série de correspondances, une série d'amalgames, une série de suppositions différentes. Et je prends un passage dans un des essais sur Edgar Poe, où Baudelaire dit quelque chose d'assez extraordinaire sur lequel on s'arrête très rarement, puisqu'on a toujours la tendance, évidemment, à voir le Baudelaire poète et cette grande auteur de la poésie, cette supériorité de la poésie. Yves Bonnefoy, en commençant le séminaire ici, il y a quelques mois, il avait commencé son discours en disant « La littérature n'est pas la poésie. La poésie n'est pas la littérature. » Et il arrivait à cette supériorité du mot du poète, de la poésie, du mot poétique. Mais ici, regardez, Baudelaire pense que, pour un point, du moins, la nouvelle a une supériorité sur la poésie. Et si nous lisons ces passages, nous verrons qu'il s'agit exactement d'un enchaînement sorite, d'une sorte de syllogisme par récurrence, exactement comme l'exemple classique, stoïcien classique, hein, le sage est intempérant, quelqu'un qui est tempérant et constant, qui est constant et sans trouble, qui est sans trouble et heureux, donc le sage est heureux. C'est l'enchaînement. Il y a un point sur lequel la nouvelle a une supériorité même sur le poème. Voilà la thèse. Le rythme est nécessaire au développement de l'idée de beauté, qui est le but le plus grand et le plus noble du poème. Or, les artifices du rythme sont un obstacle insurmontable à ce développement minutieux de pensée et d'expression qui a pour objet la vérité. Car la vérité peut être souvent le but de la nouvelle. Et le raisonnement, le meilleur outil pour la construction d'une nouvelle parfaite. C'est pourquoi ce genre de composition, qui n'est pas situé à une aussi grande élévation que la poésie pure, peut fournir des produits plus variés et plus facilement appréciables pour les communs des lecteurs. Un moment extraordinaire, si vous voulez, hein, où la grande vituperation de l'imbécilité moderne s'ouvre vers une sorte de common sense à la britannique, où le commun des lecteurs doit accéder à la littérature et peut accéder par une nouvelle bien construite à la vérité. Paolo Tortonese, dans un article très beau, très, très intéressant sur antimoderne, hein, de Baudelaire antimoderne, contre la philosophaillerie moderne, il suit, hein, avec une piste, je dirais, d'enquête à la Edgar Poe, hein, la Dupin, il suit toutes les raisons pour lesquelles, en effet, il ne faut pas voir que c'est tellement Victor Cousin, hein, qui est derrière ces, cette haine pour la philosophie moderne chez Baudelaire, mais que c'est plutôt Genève et Boston. C'est plutôt les puritains, c'est plutôt Töpfer, et c'est plutôt une pensée protestante. Et à la fin de cet essai, par l'auteur Tonnez, il pose le problème, comment faisons-nous à sceller la grande contradiction entre tous les moments où Baudelaire est contre l'hérésie du didactique, contre la vérité donc, et les moments en revanche dans lesquels Baudelaire, comme Jérôme Tello l'a dit avec ses citations, Baudelaire montre que la beauté est le but de la poésie et c'est le but le plus élevé. Et vous voyez qu'ici il y a un moment de grand pivotement, de ces grands pivotements qui sont plus que les contradictions de Baudelaire, qui d'ailleurs sont contextuelles, coup par coup, essai par essai, situation par situation, mais qui sont la manière dans laquelle on déploie toutes les possibilités. Quelqu'un qui est enchanté par les suppositions, par le « si », par le « possible », il peut envisager la possibilité de la beauté absolue, complètement ennemi de la vérité, et il peut envisager la possibilité d'une bonne vérité, de la vérité qui serait donnée par une nouvelle bien construite ou par une pensée bien faite. J'ai envie de voir avec vous une autre expérience de pensée. Une expérience de pensée, je dirais, radicale, qui s'attache à un des aspects importants de l'expérience de pensée, qui est la simulation. Lorsque j'imagine des possibilités, je me mets dans les conditions où quelqu'un qui vivrait cette autre possibilité est en train de la vivre. Donc, dans l'expérience de pensée, je peux simuler ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. Coup formidable, anti-18e siècle, comme disait André Guillot dans une de ses conférences, contre tout le mythe de la sympathie au XVIIIe siècle, le mythe qui est passé par Rousseau, de la sympathie, par pitié. Rousseau, dont dans un essai sur Edgar Poe, Baudelaire disait « Méfiez-vous, il n'est pas philosophe », alors que Edgar Poe est philosophe, et c'est souvent sa sensibilité blessée et pleine de rancune qui donne l'idée d'une philosophie, mais c'est une fausse philosophie. Donc, cette simulation, vous voyez, elle n'est pas du tout sympathisante. Elle a un fond de participation, mais ce n'est pas greffé sur une sympathie sentimentale. C'est greffé, si vous voulez, sur un grand travail de l'intelligence. Le poète est souverainement intelligent. Vous vous souvenez, dans la première citation que nous avons vue ici à l'écran, de l'intelligence. Et je voudrais parler un petit moment d'une autre merveilleuse expérience de pensée à l'intérieur des essais de Baudelaire. C'est l'essai de 1857 sur Flaubert, sur Madame Bovary. C'est l'essai où il fait souvent l'éloge du raisonnement, même en passant par l'éloge qu'il fait de Charles Barbara, l'écrivain qui avait décrit Baudelaire lui-même, dans un de ses romans, L'assassinat du Pont Rouge. C'est Barbara qui, dit Baudelaire, est un écrivain lucide et raisonneur, qui aime entrer, tentation irrésistible du curieux, bien sûr, qui aime entrer dans les états les plus improbables de la conscience et de l'âme humaine. L'essai, bien sûr, n'est pas sur Barbara, mais sur Flaubert, mais il y a cette préparation de cette entrée dans la conscience, dans la pensée de l'autre. Tentation, d'ailleurs, qui prenait Baudelaire lorsqu'il présentait Edgar Poe, dans un des essais sur Edgar Poe, il disait, il me serait sans doute difficile, mais je pourrais le faire, hein, je pourrais entrer dans les mécanismes de composition d'Edgar Poe et vous les expliciter. Alors, lisons cette expérience de pensée. Alors, je disais que celle de l'essence du rire de Virginie était une expérience de pensée moderne, hein, qui était favorable au diabolisme moderne. Et celle-ci, évidemment, est une expérience de pensée, vous le verrez, anti-moderne. Il s'agit de tout ce que Flaubert a dû se dire pour composer Madame Bovary. Flaubert a dû se dire, hein, voilà la supposition. Quel est le moyen, hein, Flaubert lui-même fait une expérience de pensée, regardez la mise en abîme, hein, Baudelaire imagine ce que Flaubert a dû se dire, et Flaubert se dit, quel est le moyen le plus sûr de remuer toutes ces vieilles âmes? Elles ignorent en réalité ce qu'elles aimeraient. Elles n'ont un de goût positif que du grand. La passion naïve, ardente, l'abandon poétique, les fait rougir et les blesse. Soyons donc vulgaires dans le choix du sujet, puisque le choix d'un sujet trop grand est une impertinence pour le lecteur du XIXe siècle. Et aussi, prenons bien garde à nous abandonner à parler pour notre propre compte propre. Nous serons de glace en racontant des passions et des aventures où le commun du monde met ses chaleurs. Nous serons, comme dit l'école, objectifs et impersonnels. Et aussi, comme nos oreilles ont été harassées dans ces derniers temps par des bavardages d'écoles puériles, comme nous avons entendu parler d'un certain procédé littéraire appelé réalisme, injure dégoûtante jetée à la face de tous les analystes, mot vague et élastique, qui signifie pour le vulgaire non pas une méthode nouvelle de création, mais une description minutieuse des accessoires, nous profiterons de la confusion des esprits et de l'ignorance universelle, nous étendrons un style nerveux, pittoresque, subtil, exact sur un canevas banal, nous enfermerons les sentiments les plus chauds et les plus bouillants dans l'aventure la plus triviale, les paroles les plus spirituelles, les plus décisives, s'échapperont des bouches les plus sottes. Magnifique moment de haine de la modernité, mais magnifique moment dans cette simulation de l'expérience de pensée, de l'adoration que Baudelaire porte à Flaubert dans une lettre tardive, pleine de colère et de furie de 1866, Ancel, il me semble, hein, furieux hein, des éloges qu'Ancel avait fait pour Deschanel, Baudelaire dit « Excepté Chateaubriand, Flaubert, Stendhal, Balzac, De Vigny, Banville, Gautier, le comte de Lille, j'ai horreur de la racaille moderne. » Phrase complètement ambivalente selon le titre « Moderne et anti-moderne » où bien sûr il y a l'antimoderne violent contre la bêtise de son siècle et les valeurs modernes, positives, de ces écrivains, ces rares écrivains dont il égrène le nom dans cette lettre sublime hein, qui continue avec « Vos académiciens me font horreur, hein, tout me fait horreur ». Donc l'expérience de pensée nous amène dans la pensée de l'autre. Je ne peux pas m'empêcher de voir le plaisir extrême que Baudelaire a dû avoir à simuler d'entrer dans la pensée de Flaubert. Je ne peux pas m'empêcher de voir, en dépit de l'effort du traducteur d'Edgar Poe, le plaisir que Baudelaire a dû avoir à traduire, à entrer, traduire dans le mot tel que Delacroix l'utilise, hein, traduire d'une pensée à une autre pensée, d'une forme à une autre forme. vérifier tous les possibles, le plaisir que Baudelaire a eu. Nous avons la tendance, bien sûr, justifiée, appuyée surtout le désespoir de Baudelaire, l'enfer, la solitude, Baudelaire solitaire, la souffrance, la douleur, l'horreur du temps. Il y a quelques semaines, Jean-Luc Steinmetz rappelait l'ennemi, ce poème magnifique. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par des brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Et bien sûr, le poème continue dans une méditation terrible sur l'automne des idées, sur le temps qui mange la vie, et en même temps avec une émotion lyrique, mélancolique, de communauté, de familiarité avec la douleur. Mais si vous regardez bien ces quatrains que je viens de citer au début du sonnet, vous voyez que c'est aussi la manière dans laquelle Baudelaire traduit la peinture de Delacroix, le peintre qu'il aime souverainement, il la traduit dans le poème. Et je pense, j'ai envie de penser que ces brillants soleils et ces fruits vermeils sont le plaisir que Baudelaire a dû avoir à traduire ce que Flaubert ressentait, ce que Edgar Poe faisait. Dans un essai sur Edgar Poe qui présente la traduction de Eureka, ce long poème en prose, immense expérience de pensée d'Edgar Poe, Baudelaire cite la dédicace d'Edgar Poe, une toute brève, courte dédicace. To the few who love me and whom I love, to those who feel and not to those who think, to the dreamers and those who put faith in dreams as the only realities, aux rares personnes qui m'aiment et que j'aime. Non pas tellement à ceux qui pensent, mais à ceux qui sentent, à ceux qui sont des rêveurs et qui croient dans le rêve comme dans la seule réalité, j'offre, continue Edgar Poe, ce livre de vérité. Je l'offre comme un art product, un objet artistique, traduit Baudelaire. Et je l'offre non pas pour les vérités qu'il contient, mais pour la beauté de la vérité. Je l'offre comme un roman, ou, s'il me permet de le dire, comme un poème. Voilà donc que dans l'union mystique, voilà donc que dans l'extase des correspondances, il n'y a plus le temps qui dévore la vie, il n'y a plus le passé, le présent, le futur, mais il y a l'union mystique de l'instant et de l'éternel, il n'y a plus de différence entre un tableau, un produit d'art, un roman, ou une nouvelle, ou un poème. Il y a tout juste ce qui tend à la vérité et à sa beauté. Merci.